Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre une fois encore pour les répliques du Nouveau Conservateur, un numéro presque spécial, enfin, une émission presque spéciale, puisqu'enfin, je me le gardais par devers moi, mais je pense que l'occasion est propice. Nous recevons aujourd'hui, invité spécial et unique, François Asselineau. Bonsoir, cher François Asselineau.
Bonsoir, bonsoir.
Je dis bonsoir parce que l'émission est rediffusée à 23h le jeudi, c'est un bonsoir générique.
Alors bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie aussi.
On est un peu pris de vertige depuis quelques semaines. Déjà, l'année dernière avait été secouante, mais alors, Venezuela, Canada, Cuba, Groenland, Iran, Quentin... Epstein, l'arme nucléaire française dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir, qui est un sujet grave. Mais les sujets graves s'accumulent ou s'accumoncellent, comme disait la bonne de ma grand-mère. Et on ne sait pas très bien d'abord où donner de la tête. On ne sait pas très bien si toutes ces affaires sont reliées, si on peut trouver un schéma explicatif d'ensemble. Et on ne sait pas très bien que penser. Alors, dans ces circonstances particulières et un peu éprouvantes, secouante, j'ai actionné mon appareil téléphonique et j'ai appelé François Asselineau au secours pour que son regard en général très apaisé et apaisant nous éclaire un peu dans ce brouillard.
Alors merci de m'avoir invité, apaisé, disons que j'essaie d'avoir le regard avec suffisamment de recul, de hauteur de vue pour ne pas m'enflammer sur les sujets de l'actualité les plus brûlantes, mais il est exact quand même que l'on peut être légitimement inquiet de la situation. Si je voulais prendre peut-être plus de hauteur de vue, je dirais que on a quand même le sentiment d'un basculement du monde et d'une façon ou d'une autre, un petit peu que la civilisation, alors je sais que vous n'aimez pas forcément ce mot, mais la civilisation occidentale. En tout cas, la domination du monde par le monde occidental, certes, par l'Europe et son prolongement ensuite les États-Unis, que tout ceci arrive à sa fin. Alors, c'est pas nouveau, hein. Ça fait des décennies même qu'on prophétise ça, mais là, d'un seul coup, on a l'impression que les phénomènes s'accélèrent. Voilà. Et on a l'impression c'est un peu comme si, mené par les États-Unis d'Amérique et tout particulièrement par Donald Trump, il y avait un monde qui refusait d'admettre qu'il n'avait plus la domination planétaire et qui s'agitait un petit peu dans tous les sens pour que ça ne soit pas le cas. Alors ça donne effectivement ces politiques qui sont un peu incohérentes, la politique de Trump, la politique de l'Union européenne, il faudra en parler parce que on est en train d'assister en ce moment, enfin même avec la meilleure volonté du monde. Je pense que les plus gros ardents partisans de la construction européenne ne peuvent pas nier qu'on a des problèmes inimaginables en Europe.
À quoi s'ajoute, en l'occurrence, pardon de vous couper, une divergence maximale entre la plupart des pays qui suivent le président américain et l'Espagne qui va exactement à l'opposé, avec une Grande-Bretagne qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui se fait tancer par l'empereur parce que son soutien est tiède.
Alors là, vous parlez de l'actualité la plus immédiate qui concerne la guerre contre l'Iran.
Oui.
Effectivement, l'Espagne a pris une position très, 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 très différente des autres. Mais sur l'affaire de la guerre en Ukraine, je vous rappelle quand même que la Hongrie et la Slovaquie ont aussi une position totalement différente des autres. Et puis, il y a tout ensuite un dégradé entre les plus ardents partisans du régime Zelensky, Macron, Merz, Starmer, et puis à l'autre bout, certains qui sont quand même assez tièdes, je pense à Madame Meloni ou à tel ou tel pays de l'Est. Donc, sur ces deux très grands sujets d'actualité, on voit que, en fait, il n'y a plus de politique étrangère, de sécurité et de défense, c'est-à-dire quand même un des trois piliers de Maastricht.
Mon cher, c'est l'autre volet du traité, du funeste traité de Maastricht. Il y avait le titre relatif à la création progressive de l'euro, et puis le titre 5, auquel j'ai consacré un livre d'ailleurs, qui s'appelait « L'Europe vers la guerre », plutôt pas démenti par la suite des, des événements. Ce titre 5, sur la politique étrangère et sécurité commune, il était de 92. En 98, j'écrivais qu'il n'y a aucun point d'application. Il n'y a pratiquement aucun point où, à l'époque, nous étions, enfin, les Européens n'étaient pas 27, un peu moins. Mais déjà, la divergence était à peu près constante sur tous les sujets du monde. Il n'y a jamais eu de politique étrangère et de sécurité commune.
Oui, de même qu'on peut le voir sur d'autres sujets. Sur l'agriculture, on voit bien que la France, l'agriculture française, comme d'habitude, est la victime expiatoire de la politique européenne qui roule en faveur de l'industrie du Nord, en particulier l'industrie allemande, au détriment de l'agriculture française. J'ai fait le compte, depuis le traité de Maastricht, il y a eu 17 accords de libre-échange qui ont été signés par la Commission européenne, avec à peu près tous les pays du monde, d'ailleurs, soit dit en passant. Ce qui pose déjà, d'ailleurs, un petit problème. Et là, j'invoque ici les personnes qui m'écoutent. Elles savent bien, enfin, c'est ce qu'on nous explique en France depuis qu'on est enfant, si j'ose dire, quand on va à l'école, quand on est collégien, lycéen, etc. On nous explique la fameuse méthode Monnet-Schumann, c'est absolument génial. C'était qu'on allait faire apparaître une convergence d'intérêts, une communauté de destin avec un marché commun, c'est-à-dire par l'abolition des frontières douanières, et qu'on allait donc, c'est en fait une vieille lune, c'était le principe du Zollverein qui avait été mis en œuvre par Bismarck. Mais si on y réfléchit bien, tous ces accords de libre-échange avec le monde entier, c'est quoi alors? Il s'agit d'avoir en fait un gouvernement mondial. Parce que on nous explique qu'il faut faire une zone de libre-échange, le marché commun, que ça préfigure une Europe qui va faire ensuite contrepoids à l'Asie, contrepoids aux États-Unis, etc. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'au quotidien, depuis 1992, on fait des accords de libre-échange avec le monde entier. Donc au bout du compte, c'est une zone totale de libre-échange. Donc au bout du compte, si j'applique ce que l'on nous explique, ça veut dire que l'objectif final, eh ben, c'est qu'il y ait une espèce d'Union européenne à l'échelle du monde entier et qu'il y ait un gouvernement mondial. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, je vous ai dit, c'est quand j'ai regardé ça récemment, au sujet de l'affaire UE-Mercosur, je me suis rendu compte qu'il y a eu, depuis 1992, 17 accords de libre-échange qui ont été signés par la Commission européenne. Et tenez-vous bien, sur ces 17 accords de libre-échange, il y en a un qui a joué en faveur de la France, et 16 en défaveur de la France et de l'agriculture française. Et toujours en faveur de l'Allemagne.
Alors vous savez de quoi vous parlez, parce que j'ai mal présenté, nous sommes entrés très vite dans le vif du sujet, cette émission. Vous êtes inspecteur des finances, donc ce sont des questions qui ne vous échappent pas, donc vous les regardez avec un œil d'expert. Et
puis j'ai travaillé aussi au commerce extérieur dans ma carrière.
Et vous fûtes longtemps membre d'un cabinet ministériel important, celui des affaires étrangères, enfin vous avez une grande expérience administrative, à la différence d'à peu près tous les autres candidats à l'élection présidentielle, mais passons. Soit dit par parenthèse, vous nous confirmez que vous êtes candidat à l'élection présidentielle.
Ah bah bien sûr, je l'ai dit. Mais il ne s'agit pas de le dire d'ailleurs.
Ah d'accord, nous ne l'avons pas dit.
Il s'agît de s'en donner les moyens. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui disent qu'ils vont être candidats et qui ne s'en donnent pas les moyens.
Voilà.
Si vous êtes gentil, je vous donnerai quelques noms tout à l'heure.
Très bien, donnez-nous des noms, on parlera un peu de politique intérieure, mais les sujets sont nombreux. Je dois dire que ce que nous n'avons pas dit aujourd'hui, à l'instant, nos auditeurs peuvent le retrouver sur Internet, puisque c'est d'autant plus gentil d'être venu au pied levé. Dans 2 heures à peu près, ou 3 heures, nous sommes mercredi, vous intervenez en direct sur UPR TV, comme tous les mercredis. C'est admirable, parce que ça fait plus de 2 heures, souvent vous dépassez 2 heures.
Oui, c'est 2 heures en gros. Oui.
De tête à tête avec la caméra, et puis des questions de vos membres, ou de vos
qui
suivent, oui. Qui vous pose des questions sur l'actualité et vous commentez l'actualité comme vous le faites un peu en primeur aujourd'hui de la semaine écoulée. Donc c'est très gentil d'être venu et on peut suivre François Asselineau ensuite, puisque nous oublierons bien entendu des sujets dans sa... Je crois que c'est le numéro 100 ou 101 d'ailleurs.
C'est le 101 cette
semaine. Oui, le 101e direct du mercredi de François Asselineau. C'est très facile à trouver. Vous tapez UPR TV,
voilà.
Et vous l'avez en direct et puis vous l'avez ensuite ad vitam aeternam sur YouTube. Aussi, j'ai oublié de dire que sont dans ce studio, bien entendu, mon inséparable complice Pierre Lourse.
Bonsoir.
Bonsoir, mon cher Pierre. Je crois que vous n'êtes pas mécontent de pouvoir poser des questions à François Asselineau.
Bah, je suis très content de
Une ou
voir en
deux.
chair et en os parce qu'effectivement, je le regarde, l'écoute tous les mercredis avec un
À vous
grand
aussi.
plaisir. Oui, bien sûr. Et
Et vous dépassez 100 000 chaque fois, 100 000
Ah
auditeurs. C'est
oui. On
formidable.
a même dépassé 220 000
Ah
maintenant.
bon?
C'est pas mal.
C'est vertigineux,
Ouais, c'est
vos
bien, ça
succès
marche
sur
bien.
YouTube. Pardon. Alors, Pierre.
Non, je voulais juste dire à François Asselineau que non seulement je l'écoute, je suis pratiquement d'accord sur, enfin, sur une très grande majorité de ses idées, et en plus je vote pour lui, ce qui est relativement rare.
Ah oui, parce que le problème de François Asselineau, c'est que quand on l'écoute, on tombe en admiration devant la clarté très classique des vues qui reprennent au fond l'alpha et l'oméga de la politique française depuis des siècles. Hein. Vous êtes un dépositaire, comme le fut au XXe siècle votre prédécesseur, le général de Gaulle. Vous êtes un peu l'héritier d'un bon millénaire d'une politique assez constante qui s'appelle la politique de la France, qui s'appelle la souveraineté. Vis-à-vis des hégémonies extérieures, comme vis-à-vis des féodalités intérieures, c'est ça, hein, la dialectique française.
C'est
On peut
vrai.
ajouter d'ailleurs le souci de protéger la civilisation. C'est un trépied, la souveraineté et la politique de la France la plus traditionnelle. Défendre la civilisation contre les barbaries extérieures. C'est ainsi d'ailleurs que dans votre programme, je m'empresse de le dire, parce que c'est rare et ça vaut d'être noté, vous avez ajouté depuis plusieurs années déjà l'idée de modifier la Constitution française pour faire référence à la tradition catholique de la France, pour
Oui,
aider les
tradition chrétienne,
tribunaux
oui.
chrétiennes, oui, pardon, pour aider les tribunaux en cas de conflit
Oui, parce que je
religieux, à
pense que
trancher dans le sens de la tradition.
j'applique, vous savez, c'est un des innombrables conseils de Gaulle qui était judicieux, qui disait la politique, il faut partir des réalités. Or, la réalité de la situation française aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les Français ont une double allégeance, si l'on peut dire, en tout cas une double volonté. La première, c'est que les Français sont devenus très attachés à la laïcité. Les gens estiment que ça n'est pas l'État, l'État ne doit pas avoir une religion en particulier, que chacun peut avoir sa religion, très souvent celle de ses parents d'ailleurs, mais pas forcément uniquement. Et les Français peuvent aussi ne pas avoir de religion, et bien, tout ça relevant de la sphère privée. Voilà. Donc là, les Français sont assez
Je
attachés à ça.
distinguais pas trop les deux sphères,
Les Français sont
justement.
attachés à ça. Et par ailleurs, les Français sont aussi attachés aux traditions françaises, avec une église dans un village, avec les cloches qui carillonnent le dimanche pour Noël, pour Pâques, etc.
Ça va bien
Bon,
au-delà, il y a les valeurs quand
et
même,
puis,
les
oui, et puis
principes.
les valeurs, notamment toutes les valeurs de justice, de vérité, l'égalité de l'homme et de la femme, enfin, tout ça, ce sont des valeurs quand même qui sont héritées du christianisme. Et le souci de la vérité aussi, ça c'est important.
Oui, la
Donc,
conscience individuelle.
voilà. Et puis, c'est même au-delà de. Enfin, c'est des valeurs, mais c'est aussi, j'allais dire, une identité nationale. Voilà. Les Français, ils sont attachés à ce qu'il y ait une église dans un village. Ils ont très majoritairement pas envie de voir lâchons le mot, puisque c'est quelque chose qui taraude la société française, de voir des mosquées avec des grands minarets, on peut les voir non seulement à Istanbul ou à Jeddah, mais comme on les voit, par exemple, à Manchester. Bon.
Pas
Et
encore à
donc,
Colombey les deux mosquées.
voilà. Donc, comment faire pour concilier les deux? J'y ai réfléchi. Je pense que je trouve que la situation, ce que je propose, c'est assez intéressant. On garderait, nous, dans la définition, c'est inscrit dans notre constitution, la France est une république laïque, et ça, c'est comme ça que ça a été écrit depuis 1958. Donc, on garde le premier aspect, mais on y ajouterait de tradition chrétienne. Et quel est l'intérêt d'ajouter ça? Ça veut dire que actuellement, il y a des cultes. Enfin, tout le monde peut avoir. Tous les cultes sont autorisés, mais les synagogues, les mosquées, les temples hindous, etc. Il y a un département à l'île de la Réunion. Il y a des temples hindous, beaucoup. Les pagodes, mais principalement quand même les synagogues et les mosquées ont une certaine discrétion. C'est une espèce d'élégance, je trouve. Ce sont des religions qui sont minoritaires dans un pays qui a 1500 ans d'âge.
Ont ou doivent avoir?
Non, elles ont actuellement. On peut pas. Vous n'avez pas, quand vous vous baladez, vous n'avez quand même pas des synagogues ou des mosquées qui sont trop ostentatoires.
On entend de temps en temps le muezzin dans certaines villes de l'Est.
Bon. En attendant,
comme en Angleterre.
En attendant, ce que je pense, c'est que cette situation est éminemment fragile et qu'effectivement, on peut avoir, dans les années qui viennent, notamment sous l'influence des frères musulmans qui ont infiltré, avec des financements du Qatar, qui ont infiltré certaines banlieues françaises, par exemple, des dépôts de, je sais pas, un permis de construire dans une ville de Seine-Saint-Denis ou dans une ville d'une banlieue où il y a beaucoup une forte immigration, et des gens qui proposeraient, par exemple, la construction d'une mosquée avec des minarets, comme je le disais, des minarets de 40 mètres de haut, avec l'appel du muezzin, etc. Or, actuellement, si tel était le cas, on peut imaginer qu'il y aurait une association de riverains qui protesterait en disant que c'est un trouble à l'ordre public, que ceci s'est pris par la mairie. Hein. Mais si la mairie a été elle-même infiltrée, justement, par les frères musulmans, la mairie pourrait donner son feu vert
ou par faiblesse, au
permis de construire. Et à ce moment-là, une association de riverains se tournerait vers le tribunal administratif. Et le tribunal administratif, on peut imaginer, comme il est sur place, bon, pourrait, par exemple, invalider le permis de construire. Mais à ce moment-là, la commune se porterait devant le Conseil d'État. Et tel qu'on imagine le Conseil d'État, la façon dont dans sa composition actuelle...
Ou sa décomposition.
On a au Conseil d'État, comme d'ailleurs au Conseil constitutionnel, comme d'ailleurs dans un certain nombre de ces institutions sur lesquelles il va falloir réfléchir, on a au Conseil d'État des gens qui diraient non, c'est pas du tout normal, il faut autoriser ça, puisque l'État ne reconnaît aucune religion, donc tout le monde est sur le même plan. Et ça, je pense que c'est grave, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, la justice administrative trancherait en faveur de quelque chose qui serait perçu comme extrêmement attentatoire à l'identité nationale. Et de fait, les juges administratifs n'ont pas actuellement le moyen d'agir autrement. À partir du moment où on mettrait dans la Constitution française, surtout qu'il y aurait des explications de vote, etc., qui font partie de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à partir du moment où on aurait modifié la Constitution comme ça, les juges administratifs seraient obligés d'en tenir compte et pourraient donc accorder des permis de construire, comme c'est d'ores et déjà le cas, mais à condition que, pour les cultes minoritaires, les cultes qui ne sont pas dans la tradition française, il y ait une certaine...
Très bien.
Une élégance, un savoir-vivre.
Alors, François...
Alors, je me permets d'insister sur le fait que dans le parti politique que j'ai créé, qui est au-dessus du clivage droite-gauche, on a beaucoup de Français d'origine immigrée, on a des musulmans, et que je n'ai pas, depuis, ça fait plusieurs années que je dis ça, je n'ai jamais eu un seul de nos adhérents musulmans qui nous ait retourné sa carte. Ils trouvent ça tout à fait normal, parce que je dis, ils trouvent normal, en fait, qu'un pays comme la France veuille demander son identité, d'autant plus qu'ils savent que dans mon esprit, c'est quelque chose qui est plein de bénévolence, qui essaie de rassembler les Français autour d'un discours apaisé, et ils savent très bien que personnellement, je ne suis pas de ceux qui veulent donner des leçons de morale à la planète entière. Mmh. Voilà, moi je ne suis pas favorable à ceux qui sont là en train de dire il faut que les Iraniens, c'est scandaleux que les femmes portent des tchadors, etc. C'est pas notre problème, c'est le problème des Iraniens. C'est aux Iraniens et aux Iraniennes de régler
Alors,
ça.
Alors nous rapprochons de l'actualité. Il est temps, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité internationale et ensuite un peu d'actualité française. Elle est nourrie. J'ai oublié d'annoncer un non moins vieux ami Patrick Pommier, qui est à ma gauche, et qui peut-être vous posera une question tout à l'heure, François, à propos d'un premier sujet que je voudrais aborder dans l'actualité, tout chaud. Il est très intéressant, je veux savoir comment vous l'interprétez. On y a fait une allusion à propos de la division très grande entre les conceptions des États européens. L'Espagne a une politique qui, à mon avis, devrait être celle de la France, très équanime, très équilibrée, en tous les cas, ne part pas en guerre derrière l'empereur Trump, l'empereur guerrier qui se faisait passer d'ailleurs pour l'empereur de la paix, c'est plutôt tout le contraire. L'Espagne, d'ailleurs, en courant les foudres de l'Empire, Trump lui promet des ruptures de relations commerciales, etc. etc. L'Espagne, traditionnellement assez équilibrée au Proche-Orient, elle fut la première, vous le savez, à reconnaître l'État palestinien. il y a déjà longtemps, et sans Premier ministre socialiste, voilà qui vous donne raison, il y a encore des socialistes nationaux, si on peut dire, dans ce sens-là, enfin qui ne sont pas complètement américanisés, l'Espagne fait entendre un son tout à fait différent. Comment interprétez-vous cette exception espagnole, qui n'est peut-être d'ailleurs pas exceptionnelle?
Alors, déjà, je pense que c'est une exception qui n'est pas forcément uniquement espagnole, enfin, qu'elle a pu changer. Et il me semble, au moment de la guerre du Golfe, il y avait Aznar, qui était à l'époque espagnol, qui lui était tout à fait en ligne avec les États-Unis. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit forcément lié à un pays en particulier. Il est vrai quand même que l'Espagne n'a pas en son sein un lobby pro-israélien comme il y a en France. En France, il y a quand même un lobby pro-israélien important. Et en Espagne, ça n'est pas le cas. Ce qui fait que l'Espagne se singularise un petit peu. Là, on y est, et ils ont condamné directement et ouvertement.
Ah oui, très nettement. Comme le pape, d'ailleurs. Je pense qu'il y a une certaine latinité. Et oui, justement, Patrick Pommier a été longtemps en poste dans les pays d'Amérique latine. Je lui ai demandé de venir parce que l'Espagne a un certain retentissement dans les pays d'Amérique latine et réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a un lien, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Il y a un lien entre l'Amérique du Sud et l'Espagne qui est un peu dissident par rapport à l'unanimité ou à la fausse unanimité occidentale.
Si vous voulez, le fond de mon point de vue, c'est que de toute façon, l'Europe, elle est extrêmement morcelée et divisée. Il n'y a, comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu une Europe unie. Ça n'a jamais existé. Donc depuis 2500 ans, je ne sais pas, depuis le miracle grec...
Même pas pour combattre le Grand Turc.
Il n'y a jamais eu d'Europe unie. Qui une Europe, une espèce d'entité politique qui serait allée de l'Irlande jusqu'à Chypre, et puis de la Pologne, et de la Finlande, ou de la Laponie jusqu'à Gibraltar, ça n'a jamais existé. Quelque chose qui n'a jamais existé en 2500 ans n'a strictement aucune chance d'exister un jour. Donc ça veut dire que la construction européenne que nous poursuivons est en fait un fantasme.
Ça, c'est pas, je vous coupe parce que c'est pas anodin de dire ça.
Bien sûr que c'est pas
anodin. C'est une conception de l'histoire, des tendances lourdes de l'histoire, que vous connaissez et que vous prenez en compte, comme il le faut, je crois, à mon avis, pour lire la réalité d'aujourd'hui et les promesses ou les impossibilités de l'avenir.
Il y a eu, il y a eu des cicatrices, si l'on peut dire, de l'histoire. Le monde romain, et c'était un monde qui était centré sur la Méditerranée. Vous trouvez le même type de ruines à Vaison-la-Romaine, en Syrie ou en Algérie. Vous allez trouver des ruines romaines dans tout ce pourtour méditerranéen. En revanche, vous ne trouverez pas un Decumanus Maximus ou un Cardo Maximus à Helsinki ou en Irlande. Donc il y a les pays au sein de l'Europe qui ont été conquis par Rome et ceux qui ne l'ont pas été. C'est une des premières grandes césures. Deuxième grande césure, il y a les pays qui ont été conquis par l'Empire byzantin et ceux qui ne l'ont pas été. Troisième césure, ceux qui ont été conquis par l'Empire ottoman et ceux qui ne l'ont pas été. C'est très important en Europe de l'Est.
Mais Rome.
J'ai parlé de Rome.
Oui, mais c'est le plus. Pardon, mais c'est le plus important.
Oui, mais ce sont deux choses. Vous ne m'avez pas écouté.
Si.
D'abord, il y a Rome. Si vous voulez, vous avez des pays
qui
ont été à la fois conquis par Rome et puis d'autres qui ne l'ont pas été. Il y en a qui ont appartenu à l'Empire ottoman, d'autres qui ne l'ont pas été. Si vous allez vous balader en Europe de l'Est, vous comprendrez. On ne peut pas comprendre l'histoire de la Bulgarie si on méconnaît l'histoire d'une part de l'Empire byzantin et puis de la fin de l'Empire byzantin et comment la Russie est devenue la troisième Rome lorsque, vous le savez, Zoé Paléologue, qui était la nièce du dernier empereur Constantin XI, Dragazès, est allée se marier avec Ivan III de Moscovie. Et comme l'Empire byzantin s'est effondré, elle a transmis...
Enfin un homme politique érudit, mes enfants.
Elle a transmis à Moscou... Ivan III de Moscovie, elle lui a transmis, si je veux dire, le relais. C'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé de la troisième Rome. C'est à partir de ce moment-là que les grands-ducs de Moscovie vont prendre le titre de César, de Tsar. Mmh. C'est l'histoire de l'Europe, elle est tout à fait fascinante. Donc,
mais François, je reviens sur un sujet.
Ceux qui ont obtenu, ceux qui ont appartenu.
Nous avons tous les deux des choses à dire.
Ceux qui ont appartenu au Saint-Empire romain germanique et ceux qui ne l'ont pas été. Aujourd'hui, ce que je pense profondément, c'est que la France, elle a des liens assez étroit, les liens les plus étroits qu'elle a, en fait, parmi les pays de l'Europe, si on veut bien regarder ça, c'est d'abord avec les pays quand même catholiques romains, parce qu'il y a ceux-là, ça c'est très important, et ceux qui n'ont pas connu la réforme protestante, et en particulier à l'intérieur de ceux-là, les liens sont les plus étroits, je pense, avec l'Italie. La France et l'Italie, bon, il y a aussi la Wallonie, la Belge, mais en tant que grand État, avec l'Italie. Avec l'Espagne, les relations sont plus difficiles. Hein. Oui. On a quand même... Il y a eu des hauts débats, les guerres napoléoniennes ont laissé beaucoup de rancœur, etc. Mais la France et l'Italie sont des pays qui sont très, très proches. On a beaucoup plus d'intimité, de proximité intellectuelle avec les Italiens qu'avec les Allemands.
Alors, je reviens...
Le franco-allemand est fondé sur une erreur de départ.
Un point très important. Oui, il y a des fractures partout en Europe, d'où l'impossibilité de faire une politique commune, ne serait-ce d'ailleurs parce que la position géographique de l'Espagne, du Portugal et de la Lituanie n'est pas la même, et comme dit Napoléon, dont on pense ce que l'on veut, il a au moins eu le mérite de dire une phrase, la politique d'un pays est tout entière dans sa géographie, il faudrait dire aussi dans son histoire. Mais enfin, c'est déjà un vice pour la politique étrangère et la sécurité commune, qui est un des grands sujets, celui que nous abordons pour commencer. Mais l'émission avance beaucoup. Je voudrais tout de même nous arrêter sur la fracture principale, qui est celle du Rhin. On en a encore eu une illustration la semaine dernière, quand la conférence épiscopale, la conférence des évêques allemands, a décidé que la croix devenait facultative. Et qu'à la place, on peut mettre un espèce de colifiché à l'intérieur duquel est inscrit un cœur. Ça ne peut pas ne pas faire référence dans mon esprit à l'idée selon laquelle, au-delà du Rhin, c'est le drame de Totenbourg. Les Germains ont vaincu les Romains qui ne sont pas allés au-delà. Et ensuite, le christianisme est arrivé, à la différence des Gaules. Quand Clovis se fait couronner, ou baptiser, et couronner, il épouse la religion de l'immensité de son peuple, qui était déjà christianisé et de façon profonde, durable, etc. Mais outre Rhin, ça s'est fait par le fer et par le feu, et de façon au fond assez superficielle. Tellement superficielle que, alors ça c'est une de mes grandes thèses, au fond l'Occident n'est pas chrétien, c'était une bêtise. L'Occident est protestant, ce qui est une forme très dévaluée du christianisme. Ça n'engage que moi, ce que je dis, François Asselineau. Mais d'Helsinki à San Francisco, il y a une espèce de truc qui s'appelle l'Occident, qui a domination protestante et qui n'est pas chrétien au sens où un catholique peut concevoir la chrétienté. Sur beaucoup de sujets, par exemple le rapport à l'argent, c'est entièrement différent et ce n'est pas secondaire. Alors, Patrick Pommier voulait intervenir sur l'Espagne, car vous n'avez pas vraiment répondu, François. Oui. Asselineau sur l'Espagne.
Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la position de l'Espagne sur le traité Union européenne-Mercosur a été beaucoup moins claire et tonitruante que celle d'hier, je crois, du président, comment on dit, du premier ministre espagnol,
Sanchez.
Du président Sanchez, sur les bombardements de la Perse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment l'expliquez-vous?
Qu'est-ce que je pense de quoi aujourd'hui?
De cette position singulière de l'Espagne, qu'est-ce que ça dit, justement, de la désunion européenne, ce que vous venez de nous dire?
Oui, la désunion...
Qui échappe à l'Occident.
Chacun voit midi à sa porte. Il y a un truc qui est tout à fait extraordinaire, c'est que vous avez vu que l'Allemagne a demandé soutien à la décision de Trump de sanctionner l'Espagne.
Oui.
Pour sa position sur l'affaire de la guerre...
Démonstration en or de la désunion européenne.
C'est même plus de la désunion, c'est-à-dire c'est une... Oui. Les traités n'existent plus, c'est un chiffon de papier. C'est-à-dire que l'Allemagne se sent, et ça va dans votre sens d'ailleurs, l'Allemagne se sent beaucoup plus proche des États-Unis d'Amérique que de l'Espagne.
C'est presque une question raciale, je vais vous dire.
Pas raciale, mais c'est...
religieux et racial.
Oui, il y a un aspect effectivement tout à fait religieux derrière, mais... Il y a quand même aussi des intérêts, une conception du monde, mais c'est très important ce qui se passe en ce moment. Et vous savez, c'était le fameux mot, le bon mot qui est attribué à Bismarck, qui disait « Wer von Europa spricht, hat Unrecht », ce qui veut dire « qui parle d'Europe ment ».
À diable.
C'est quand même intéressant, c'est-à-dire que Bismarck savait que le concept d'Europe est un concept faux. C'est ça. C'est... Et d'ailleurs, on le voit tous les jours. Regardez, Macron, là, avec son histoire, c'était ridicule la façon qu'il a ému d'aller dans la presqu'île de Crozon.
Nous allons y venir si nous avons encore un peu de temps. Mi-chemin de notre émission, nous allons écouter un Bobino et puis ensuite une musique d'Handel que j'ai choisie pour deux raisons. D'abord, parce que je m'aperçois qu'Handel est allemand et a fait
sa carrière au
Royaume-Uni. Il est un des symboles de cette liaison entre les Saxons et les Anglos. Ce que De Gaulle appelait les Anglo-Saxons, on n'a jamais compris s'il incluait l'Allemagne ou pas. Il aurait mieux fait de le faire et de se méfier des Allemands. Bref, il y a une espèce de solidarité anglo-saxonne. Moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui l'Occident. Mais nous n'en sommes pas. Ça n'empêche pas d'aimer Handel. Et je l'ai choisi d'autant plus, cette musique, cher François, que nous connaissons de longue date, et que vous m'avez dit un jour au micro de TVL, si vous voulez mieux connaître François Asselineau, écoutez sur TV Liberté nos 5 conversations de 1 heure et quart chacune. Donc nous avons beaucoup conversé ensemble, elles sont faciles à trouver sur la toile, comme on dit, sur YouTube. Et vous m'avez dit que vous aimiez spécialement Handel, et que vous étiez très ému d'une musique d'Handel, très connu, Ombre Maifu, que vous avez d'ailleurs fait jouer pour les obsèques de votre mère décédée en 2023.
Voilà, c'est ça.
Et quand vous m'avez dit ça, j'ai eu un moment d'émotion, car ma mère est décédée à la fin de l'année 2023, comme la vôtre, et pour ses obsèques, j'ai aussi choisi Handel.
Oui.
Ombre Maifu. Alors, nous n'allons pas insister sur cette convergence, d'autant que c'est une musique aussi belle qu'elle est triste, spécialement pour nous, cher François. J'ai choisi les premières notes, et là, ça ne peut pas aller plus loin parce que nous sommes déjà à la moitié de notre émission, de l'ode en l'honneur de l'anniversaire de la reine Anne, qui est magnifique et justement très apaisante.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Hélas, hélas, trois fois hélas, il faut interrompre cette musique magnifique qui faisait le silence aussi dans notre studio.
Source éternelle de lumière divine.
Ponctuée d'une preuve supplémentaire de l'érudition de notre invité, François Asselineau, qui me fait remarquer que je n'ai pas dit le titre de cette ode en l'honneur de l'anniversaire de la reine Anne. parce que le titre est plus long et vous savez tout, mon cher
Eternal
François.
Eternal Source of Light Divine.
Voilà. Source éternelle de la lumière divine.
Oui, oui. C'est un, pour les gens qui aiment Mendel, c'est assez connu, mais c'est vrai que c'est séraphique. C'est absolument admirable.
J'aime beaucoup
et je disais, là, pendant qu'on écoutait ça, je disais quand même que quand on pense qu'on vient de là, enfin, les civilisations d'Europe et que maintenant... On a des œuvres, si j'ose dire, comme celle d'Amish Kapoor au château de Versailles, le vagin de la reine, vous vous rappelez. Ouais. On s'aperçoit quand même si c'est un propos qui est...
La chute.
Il y a quand même une décadence effrayante, en fait.
Et vous disiez, justement, c'est la quintessence, et vous n'avez pas dit de l'Occident, mais de l'Europe, ça sonne agréablement à nos oreilles, que vous prononciez plutôt favorablement pour une fois l'Europe, comme source de diverses civilisations, et notamment chrétiennes, et je fais remarquer que ce n'est pas l'Occident, c'est justement la chrétienté. Il faudrait se débarrasser de l'Occident pour retrouver la chrétienté, parce que pendant des siècles, on a parlé de la chrétienté, on sait à peu près ce que ça veut dire, alors que l'Occident qui a pris la place de la chrétienté est du toc. Pour moi, intellectuellement, c'est du toc, et j'aimerais en reparler un jour avec
vous. Et Occident vient du latin occidere, qui veut dire tuer,
voilà.
Qui a donné son nom à Oxy.
Et tomber.
Voilà.
Par voie de,
voilà. Donc,
par voie
c'est de conséquence. C'est pas très bon. Voilà.
Alors, Pierre Lours brûle de vous poser une question, François Asselineau.
Oui, je voudrais juste soumettre une petite idée à François Asselineau. En me mettant dans les pas d'André Siegfried, académicien et qui a beaucoup fréquenté l'école libre des sciences politiques. D'ailleurs, c'est devenu l'Institut d'études politiques de Paris. Avant, c'était l'école libre.
C'est devenu un truc en anglais, de toute façon.
Bon.
Ça n'a même plus de nom en français.
Et puis, me mettre dans les pas aussi de Jung avec son concept de l'inconscient collectif. Je voulais proposer une interprétation à la conduite d'Israël depuis notamment sa création après-guerre. Je me demande si ce pays, si ses dirigeants et si son peuple aussi, en fait, ne sont pas conditionnés par l'histoire d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils Isaac. Je me demande si il n'y a pas là, dans cette demande biblique, où on demande à un père de sacrifier un fils tant attendu et tant aimé, s'il n'y a pas effectivement l'image, tout simplement, d'Israël qui se sacrifie dans ses combats pour plaire à Dieu et pour être enfin le peuple élu. Je pense qu'il y a quelque chose de ce... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre dans l'inconscient collectif des dirigeants.
Je laisse François Asselineau répondre. J'aurai un bout de réponse à apporter, cher Pierre Lous. Et peut-être vous aussi, d'ailleurs.
Oui, peut-être.
À la question que vous posez.
Je vous laisse un petit peu ce genre de remarques. Je ne suis pas sûr de le partager. Ce que je dirais d'abord, j'aurais qu'à rappeler quelque chose qui me paraît important. C'est que Israël, c'est un État, c'est un pays avec un peuple. Et que... contrairement à ce que l'on imagine volontiers, mais c'est pourtant ce que je vais dire est une évidence, c'est que tous les Juifs qui habitent en Israël ne sont pas du même avis. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, etc. En ce moment, il y a évidemment, depuis l'affaire de la guerre en Iran, et puis surtout depuis l'affaire du 7 octobre, il y a quand même un effet de drapeau, un effet de gens qui se mettent derrière Netanyahou, mais je rappelle... que Netanyahou, avant le 7 octobre 2023, il était au bord de se faire virer. Il était devenu très impopulaire.
Traîné devant la justice.
Voilà, d'ailleurs, il est
menacé de prison.
Et puis pas seulement pour des questions de corruption, il voulait également remettre en cause l'indépendance de la justice, du tribunal constitutionnel suprême, etc., etc. Donc, et je pense que ce qui est vrai de ça, on le retrouve aussi chez les Juifs de la diaspora. Tous les Juifs de la diaspora ne sont pas tous d'accord avec la politique actuelle.
Elle devient très divisée, notamment aux États-Unis, ce qui est intéressant.
Aux États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, c'est un peu une anecdote, mais pas tout à fait. Je rappelle quand même qu'il y a des évolutions sociologiques très importantes aux États-Unis. Par exemple, je n'ai pas rêvé, mais le maire de New York est musulman maintenant, ce qui est quand même bon. Et il a été élu avec beaucoup de voix de Juifs démocrates.
Oui.
Des Juifs qui, d'ailleurs, souvent, à New York, il y a beaucoup de Juifs qui sont anti-sionistes. Donc oui. Les choses sont assez compliquées. Et actuellement, on a en Israël une captation du pouvoir par cette coalition du Likoud avec vraiment l'extrême droite, des gens comme Smotrich ou comme Ben Gvir, qui sont des partisans de Eretz Israël, du Grand Israël, dont je rappelle que c'est un mythe qui est de plus en plus opérationnel, si je comprends bien, puisque l'objectif qui n'est même plus caché, c'est que Israël s'étende désormais à une grosse partie de la Syrie, toute la Jordanie, tout l'ouest de l'Irak jusqu'à
du Nil à l'Euphrate. Voilà, du Nil à l'Euphrate, qui d'ailleurs englobe une partie de l'Égypte.
Le nord de l'Arabie Saoudite, le Sinaï et toute la côte, toute la rive est du Nil en Égypte. C'est dément.
Ouais,
c'est
vous savez très bien, comme moi, vous l'érudit, qu'Israël n'a jamais eu de telle dimension. Israël, c'était un couloir de passage pris en tampon entre les Perses, justement, et les Égyptiens.
Oui, mais ce que je vous dis,
alors,
moi,
évidemment,
c'est,
des siècles
c'est,
des siècles.
C'est ce que veulent une partie, c'est l'extrême droite suprémaciste israélienne. Et c'est quand même ce qui est inquiétant. Vous avez vu qu'il y a quand même l'ambassadeur des États-Unis en Israël, il y a 3-4 jours, qui a dit que c'était un projet tout à fait normal.
Oui.
Bon, donc là,
mais parce qu'il y a une dimension biblique aussi.
Oui, ben, on est face quand
même... Mais les protestants, justement, ben, eux, et les presbytériens, religion de Trump, voilà. Reprennent.
Oui. Bon, alors ça, et ça a des conséquences concrètes. On ne peut pas comprendre la politique israélienne, notamment vis-à-vis de son environnement immédiat, si on n'a pas ça à l'esprit de la part d'une partie des Juifs. Mais encore une fois, tous les Juifs ne sont pas d'accord. Moi, j'ai noté, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même quelqu'un comme Alain Finkielkraut qui a été reçu par Radio J il y a quelques jours, qui a tenu des propos qui étaient vraiment montrés à quel point il condamne, il a dit qu'il avait honte de cette politique israélienne.
On lui a répliqué qu'il était la honte du peuple juif.
Oui,
hein,
parce que les gens sont...
C'est terrible, le fanatisme.
Vous avez un Américain, Jeffrey Sachs, par exemple, qui est juif, qui je ne sais pas si vous voyez ce qu'il dit, il est consultant à l'Organisation des Nations Unies.
Un personnage très important.
Il a les propos, c'est un économiste très important, il a des propos les plus sévères.
Oui. Alors, donc, François, quand même... je redonne la parole à Pierre Lours. Je note tout de même qu'il y a une constance dans la politique d'Israël qui dépasse Netanyahou. Il suffit de regarder une carte de géographie. Tous les pays autour d'Israël sont systématiquement détruits. Ça a commencé par la Jordanie, puis le Liban. Ne parlons pas de la Palestine et de Gaza. Mais la Syrie, l'Irak, la Libye et maintenant l'Iran, fait pas bon être voisin d'Israël. On a l'impression d'un pays qui fout le bordel tout autour de lui. Excusez-moi de dire les choses. Parce que le but de la guerre de Netanyahou, alors on le comprend pas très bien pour Trump, mais le but de guerre pour Netanyahou, il est très clair, c'est d'instaurer le chaos partout autour d'Israël.
Oui, mais encore une fois...
Quel que soit le prix en vie humaine.
Encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas. Regardez, vous avez des gens, Yitzhak Rabin, il a été assassiné.
Je sais, j'ai rencontré Yitzhak Rabin, je le loue beaucoup, mais enfin...
Par l'extrême droite israélienne. Et là, on a un vrai...
Il a perdu la partie, Yitzhak Rabin.
Oui, mais on a un vrai souci, c'est qu'il y a des forces dans le monde occidental, justement... sur la pression du lobby pro, c'est même pas pro-israélien, c'est pro-Likoud, qui tétanise. En France, par exemple, on a l'impression que toute la scène politique française, à l'exception de LFI, mais ce que disent les propos de Mélenchon, qui flirte de façon un peu nauséabonde avec une forme d'antisémitisme, c'est vrai ça. Là, quand il joue sur Luxembourg, c'est assez insensé d'ailleurs. Mais je me demande quel jeu il joue. Mais dans la politique française, si vous voulez, je trouve qu'il est absolument effarant de constater qu'il est devenu quasiment impossible de parler librement, de rappeler que la France défend d'abord les intérêts de la France. Hein, qu'il y a en France peut-être 4 à 500 000 compatriotes juifs, on a peut-être 8 à 10 millions de compatriotes musulmans, et il y a 60 millions de compatriotes qui ne sont ni juifs ni musulmans, et que le discours de la France, ça devrait d'abord être celui des Français, et pas du communautarisme. Or, je suis désolé, mais quand vous regardez des émissions comme CNews, une télévision comme CNews, il n'est question que de ça. Et ce que je note, excusez-moi de le souligner, mais je trouve que le Rassemblement National en ce moment, c'est inimaginable.
Ah, j'allais vous le dire. Est-ce que vous savez que Sébastien Chenu a déclaré hier que, il est vice-président du Front National en même temps que vice-président de l'Assemblée. Donc c'est pas un grand bonhomme, même un petit bonhomme quand on regarde son parcours, c'est plutôt minable. Mais enfin, maintenant, il a des grandes considérations géopolitiques, il sait tout d'un seul coup. A déclaré que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir l'année prochaine, ce qui tient pour certains, apparemment, le premier voyage, traditionnellement, c'est l'Allemagne, mais du futur président de la République, il voit M. Bardella, rien que ça, sera pour Israël.
Oui, mais ça veut dire...
Premier voyage, c'est Israël, comme si c'était notre principal souci.
Oui, oui, mais parce que ça veut dire, d'ailleurs, vous avez vu aussi ces sorties...
Pourquoi pas Moscou ?
C'est sorti sur Internet.
Mieux, quand même.
C'est sorti sur Internet que la société de communication qui promeut Bardella tous azimuts, sa présidente est la femme de M. Raskovitz, qui est le porte-parole de Tsahal, de l'armée israélienne.
Je veux dire que la plongée du Rassemblement national dans le sionisme intégral a quelque chose de renversant.
Alors, ce qui est terrible, c'est que vous ne pouvez pas parler de ça. Aussitôt, il y a une espèce de fatwa, la tétanie antisémite.
Sans parler de Marion Maréchal et de bien d'autres.
Mais non, mais moi, je suis pas du tout. Je suis d'autant plus à l'aise de parler de ça que je sais que je ne suis pas du tout antisémite. D'ailleurs, on n'a jamais eu à l'UPR la moindre trace de racisme ou d'antisémitisme. On n'a jamais eu ça depuis 19 ans qu'on a créé ce mouvement. Mais c'est pas pour autant que moi, je n'accepte pas l'intimidation. Le rôle d'un parti politique en France, ça doit essayer de tenir de d'abord défendre l'intérêt des citoyens français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion.
Pierre Lons...
Et moi, si je suis élu en 2027, je ne réserverai pas mon premier voyage à Israël.
Je ne
réserverai pas forcément à l'Allemagne non plus.
À Moscou, pourquoi pas Moscou, renouer les liens avec la Russie.
Ça pourrait être avec Moscou, ça pourrait être avec Pékin, ça pourrait être aussi avoir une explication dans le blanc des yeux
avec
les États-Unis d'Amérique. Il faut que la France retrouve son niveau de grande puissance et qu'elle renoue ses relations telles que De Gaulle nous les avait léguées avec tous les pays du monde, sans donner l'impression de céder
d'une
façon...
François, il nous reste 8 minutes, nous avons bien des sujets à aborder. Encore, en 8 minutes, on va le faire à toute allure. Mais Pierre Lousse voulait rajouter quelque chose.
Juste pour résumer, je pense que tous ces combats qu'Israël mène depuis sa création après-guerre, toute cette existence, je trouve qu'elle pourrait mettre en danger l'essence même d'Israël.
Et oui, il y a une phrase de Sénèque entièrement versée dans le christianisme qui est, comment peut-on dire, qui moi me bouleverse. Il est plus mauvaise chose de faire le mal que de le subir. C'est grave pour tout ce que vous appelez l'Occident. Et il faut en sortir de cet Occident. C'est grave pour les États-Unis, c'est grave pour Israël.
C'est comme moi, je suis un fervent défenseur du droit international. Et je vois que là, il y a des gens sur Internet qui sont gavés toute la journée de CNews, de LCI, de TF1, etc., qui disent « Vous êtes bien bêtes, il faut absolument se débarrasser de l'Iran, etc. etc. » Bon. Et si on commence à dire « Non, attendez, respectons le droit international », à ce moment-là, on se fait taxer, dans le pire des cas, de collabo ou de naïf, et dans le pire des cas, qu'on est des babouchons lâtres, etc. Moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'être en faveur du droit international, c'est fondamental, parce que nul ne sait de quoi l'avenir est fait. Et que actuellement, Israël se repose sur la force de l'armée américaine. Mais quelle sera la puissance de l'armée américaine dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que vous savez qu'en ce moment même, en Chine, ils produisent 700 000 drones, 700 000 drones par mois. Bon. Les armées, les guerres de demain, c'est des drones qui sont des drones suicides. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, d'ailleurs, au passage, il y a quelque chose que personne n'évoque, c'est qu'on pourrait très bien avoir la Chine qui se précipite sur Taïwan en ce moment. Parce que les États-Unis sont incapables en ce moment d'être, ils sont déjà sur deux fronts, ils ne seraient pas sur un troisième front. Est-ce qu'Israël est certain que la force américaine sera la première du monde dans 10 ans? Et est-ce qu'Israël est certain que l'opinion publique américaine soutiendra toujours Israël dans 10 ans? Il y a des évolutions sociologiques très importantes en ce moment aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup... Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez à quel point... D'ailleurs, ça a été traduit dans des sondages. On a vu que le soutien à Israël s'effondre en ce moment dans l'opinion publique américaine. Il y a encore 5-6 ans, il y avait 75% des Américains qui soutenaient Israël, 15% les Palestiniens. Maintenant, c'est quasiment devenu 45% les Palestiniens, 36% les Israéliens. Donc ça, c'est très important. Or, un jour viendra où Israël aura peut-être besoin d'avoir le droit international qui vole à son secours.
Et voilà. Donc, c'est la phrase de Sénèque.
Voilà, c'est exactement la phrase de Sénèque.
C'est une plus mauvaise chose de faire le mal que de le subir.
Absolument.
Parce qu'un jour, tout se retourne.
Il y a tous un moment.
Je signale d'ailleurs que le droit international, c'est la reprise du droit de la guerre de l'Église et que la France en est l'héritière et elle doit le rester.
Voilà.
On est bien d'accord. Bon, pardon d'aller vite. On m'apporte des messages, mais j'avais dit que je ne répondrais pas aux messages, sauf en gros dans les émissions suivantes. Quand même, quelqu'un me dit. Dans l'émission de Bistro Liberté sur TVL, M. Couteau, vous avez crié M. Asselineau. Pourriez-vous nous dire ce que vous lui reprochez exactement? Je n'ai pas crié M. Asselineau dans une mauvaise part. Je l'ai invoqué, au contraire. Et je pense que je n'ai pas grand-chose à vous reprocher, cher François. Sauf que le temps passe trop vite avec vous et qu'il reste 5 ou 6 minutes. Peut-être, ça n'est pas sans lien, pour nous parler au moins d'un point de sujet, un sujet de politique intérieure. Et je rappelle qu'on peut vous suivre tout à l'heure sur UPR TV, et vous allez sans doute avoir plus de temps pour développer. Mais au moins l'épisode assez grotesque, je trouve, est peut-être grave, de l'île Longue avant-hier.
Oui, alors ça, c'est quand même des sujets fondamentaux.
François Macron a fait une bêtise.
Écoutez, on voit que Macron, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, qui est un narcissisme échevelé, et il a dû se dire un jour, il faut absolument que je redéfinisse la politique de défense, la doctrine nucléaire de la France. Bon. On a l'impression qu'il a lancé ça comme ça. Enfin, c'est un irresponsable, en fait. Il a quelque chose de profondément irresponsable. Vous savez qu'il s'était rendu célèbre pour avoir été à la commission Attali. Et ça a été mis, d'ailleurs, dans un ouvrage. Et
pour faire des économies, il suggérait la suppression de la force de frappe nucléaire française.
En disant que l'Allemagne n'en a pas, ça prouve que ça ne sert à rien. Est-ce que vous vous rendez compte de la...
C'était déjà un agent de Rothschild à ce moment-là, c'est ce que dévoilent les papiers Epstein dont on n'a pas le temps de parler.
Est-ce que vous vous rendez compte des mains dans lesquelles on a mis la force de frappe française? Alors, il a organisé son truc, c'était un grotesque achevé, avec un Falcon, avec des quatre avions qui l'entouraient, c'est 20 000 euros l'heure de vol, donc pour 2 heures de vol, une aller, une retour, fois 5, ça fait 10 fois 20 000 euros, ça fait 200 000 euros.
L'inspection des finances qui parle.
Mais oui, mais plus les flonflons, il y avait tout le gouvernement
c'était
qui était
grotesque.
Là. Déjà, c'est des centaines de
millions. Mais je signale qu'il nous reste 2 minutes,
oui,
mon cher
vous
François.
Savez qu'il a fait ça, en plus, avec la musique d'un groupe de rock. Un Alan Parsons Project qui ne fait plus de musique depuis 1990.
C'est pas possible.
Allez voir la Manche Libre. Il a fait ça, il a fait un tweet là-dessus. On se croirait dans Apocalypse Now, vous savez, avec la chevauchée des Valkyries. Et au bout du compte, après avoir annoncé qu'il allait partager la force de frappe, on a quoi? On a quelqu'un qui nous dit tout simplement qu'on va faire une protection avancée, on ne sait même pas ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir prépositionnement d'avions avec des vecteurs nucléaires? Mais tout le monde sait que les bombardiers, c'est plus l'actualité. Il faut des sous-marins nucléaires. D'ailleurs, il le sait lui-même puisqu'il annonce le lancement d'un nouveau sous-marin nucléaire.
Oui, en plus, c'est
nucléaire.
Incohérent. Oui.
C'est incohérent. Et en plus de ça, excusez-moi, mais bon, il lance un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, dernier cri, très bien. Mais qui entrera en service en 2036. C'était dans 10 ans. Il a trouvé le nom, ça s'appellera l'Invincible. Il n'est jamais chiche pour trouver des mots, mais c'est dans 10 ans. Mais est-ce que vous savez que, donc, on prévoit, il fait tout ce scénario pour créer un nouveau sous-marin dans 10 ans. Au moment où on parle, tous les ans, les Américains ont 1,5 nouveaux sous-marins et les Chinois 3 nouveaux sous-marins par an.
Alors, voilà, le temps nous manque, c'est bien ce que je craignais, mais heureusement, vous allez peut-être traiter de la question tout à l'heure dans votre direct de François Asselineau sur UPR TV. Nous nous retrouvons, nous autres, mercredi prochain. Je dois dire aussi que je suis invité demain avec François Martin à l'émission de l'abbé de Tannouarn pour évoquer justement ces questions de politique internationale. Nous n'avons pas beaucoup évoqué les questions de politique intérieure. Pardon, Pierre Lours, vous n'avez pas eu beaucoup la parole et pas beaucoup plus, mon ami Patrick Pommier, mais je suis très content que vous soyez venu nous voir. J'espère que d'ici l'étape importante qui s'annonce à l'horizon, c'est-à-dire la présidentielle de 2027, vous nous donnerez une nouvelle occasion de vous accueillir, François
Bien
Asselineau.
Sûr.
Merci encore, à mercredi prochain.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 4 mars 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.